les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre librairie francophone. C'est l'avant-dernière de la saison et ce sont les libraires qui ont fait une grande partie de la programmation. Voici le sommaire de cette édition. 4 libraires, 6 auteurs et 6 moments de radio. Déborah Damblon, Thomas Auxerre, Josiane Letourneau et Claire Renaud ont sélectionné les livres qui les ont le plus marqués et les meilleurs souvenirs à la radio. Vous entendrez ainsi Muriel Barbery, Isabelle Wery, Michel Tremblay, Jean-Claude Grimbert, mais aussi Jacques Tardy avec Eugène. Un invité sur notre plateau également, auteur suisse très impliqué dans le monde littéraire francophone. Il publie un nouveau roman qui imagine un monde sans électricité. Bonjour Bernard. Comment.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Un monde sans électricité, ce serait un monde sans mémoire, vous le racontez dans le livre, sans société de consommation aussi. Ce serait un monde perdu ou un monde régénéré ?
Oh, je pense que ce serait plutôt un monde régénéré parce qu'il serait plein d'espoir. Il faut inventer le monde tous les jours.
Oui, on recommencerait tout.
Voilà.
C'est possible, vous pensez ?
Sur de nouvelles bases, oui, je pense que tout est toujours possible tant que la vie est là.
C'est votre fantasme ou pas ?
Fantasme, je dirais pas, mais je pense que ce sera une vraie question pour les générations futures.
On parlera de tout cela dans la deuxième partie avec vous. Bernard Comment est dans la librairie francophone cette semaine.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires aussi. Ils sont en multiplex, comme chaque semaine. Pour représenter le Canada aujourd'hui, c'est la pétillante Josiane Letourneau sous le soleil printanier de Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie du Square, tout va bien pour vous ?
Oui, ça va très bien.
Bien, nous serons à Montréal pour la dernière librairie francophone de la saison la semaine prochaine, avec de belles surprises et aussi pour la première librairie francophone estivale la semaine suivante. Deux émissions au Québec, mais complètement différentes, vous l'entendrez. En Belgique, c'est Déborah Damblon qui est dans sa librairie La Licorne à Bruxelles. Elle est avec nous dans nos studios de Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Fidèle à la librairie francophone, à la radio comme à la télévision.
Au poste, quoi.
C'est ça. On vous retrouvera sur TV5 Monde, sur le réseau France-Suisse-Belgique, dans la librairie version télé, ce dimanche à 19h. L'émission est diffusée, je vous le rappelle, sur les 9 réseaux de TV5 à travers le monde, à des heures et des jours différents. Vous trouverez toutes les infos sur le site de la chaîne en fonction du pays où vous vous trouvez. En France, c'est le retour de Thomas Auxerre.
Et
comment
oui.
Ça va, Thomas ?
Ben, ça va, Emmanuel, et vous ?
Ça va, écoutez, vous êtes libraire à Puteaux, toujours ?
Oui, c'est ça.
Dans la librairie Lamandier.
Exactement.
Et on prépare une petite librairie francophone estivale aussi, hein, puisque l'émission reprend pour l'été, chez vous.
Oui.
À Puteaux pour la rentrée littéraire. C'est un peu trop tôt pour en parler.
Mais on est quasiment prêt à vous accueillir.
Oui, mais bon, laissons passer l'été quand même. Enfin, en Suisse, il y a Claire Renaud. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève.
Et oui.
Dans la librairie L'Atmosphère. Allez, on commence cette émission avec deux femmes et deux histoires étonnantes qui ont marqué la saison. Et c'est un choix signé Déborah Damblon pour la Belgique.
Oui, oui. Et moi, j'ai choisi Muriel Barbery et Isabelle Wery.
Voilà.
Et je les ai choisies parce que j'aime souvent les écritures féminines. Et puis là, ce sont deux femmes, mais deux femmes courageuses qui n'ont pas peur de se mettre en danger, qui n'ont pas peur d'écrire là où on ne les attend pas forcément, qui restent pas dans le consensuel toujours.
Ah non.
Elles se promènent, mais à la croisée des genres. Et moi, j'adore ça. J'adore quand on casse les habitudes. J'adore quand on nous surprend. Mais bon, déjà séparément, les deux, elles sont formidables. Mais à deux, vraiment, je trouve qu'elles se répondent et puis c'est un monde de possibles littéraires. Super.
Elles nous ont étonnés, Muriel Barbery et Isabelle Wery. Et bonjour Muriel Barbery.
Bonjour Emmanuel.
On commence toujours cette émission avec un auteur et une histoire. Depuis L'élégance du hérisson, qui a été un immense succès en librairie et au cinéma, vous vous intéressez à la vie des elfes. Quel rapport personnel entretenez-vous avec ces créatures, Muriel ?
Alors c'est un rapport japonais. Lorsque j'essayais de comprendre comment on pouvait rendre compte de l'extraordinaire beauté et du sublime, presque inhumain, des jardins de Kyoto,
oui.
Je ne trouvais pas de réponse et finalement je me suis rendu compte que c'était probablement parce qu'ils avaient été conçus, dessinés et réalisés par des elfes.
D'accord, par des elfes.
Par des elfes, oui, je voyais pas qu'ils
puissent... Ça, c'est dans votre imagination. Enfin...
Mais qui sait ?
Ah oui, c'est ça. Bon, ça va être compliqué, cet entretien. Après la vie des elfes, en tout cas, vous publiez Un étrange pays aux éditions Gallimard. Un étrange livre, hein, Muriel, qui joue avec les codes de l'héroïque fantasy. Un roman qui s'autorise toutes les libertés, toutes, au risque de perdre parfois le lecteur. Il est question, par exemple, depuis la nuit des temps, du monde des brumes. Qu'est-ce que c'est le monde des brumes ?
Alors, ma fréquentation du monde asiatique, puisque j'ai vécu 2 ans au Japon et parcouru une bonne partie de l'Asie grâce à l'élégance du hérisson, m'a fait beaucoup aimer tous les paysages de brume, aussi bien les paysages réels que ceux qui sont magnifiquement transcrits dans la peinture chinoise. Et de là est née l'idée que si un jour j'inventais un monde d'elfes...
Ce serait le monde des brumes.
Et oui, les brumes y joueraient un rôle fondamental.
Et c'est là-bas que les elfes vivent, donc.
Et alors, les elfes vivent dans les brumes, communiquent grâce aux brumes, naviguent même sur la brume, dans un monde où elles permettent aussi toutes les transformations, puisque les pierres deviennent liquides, les végétaux se font flammes.
Tout est possible.
Tout est possible.
Et il y aurait, selon votre roman, des elfes autour de nous qui font le voyage régulièrement entre les brumes et la terre. Comme votre personnage Pétrus, qui va apprendre, lui, à connaître le monde des hommes, c'est un elfe. Et ce qui va le fasciner dans notre monde, c'est la littérature et le vin.
Oui, alors Pétrus est un elfe quand même assez atypique, puisqu'il est très décalé dans son propre monde, un monde sublime où tout le monde fait de la calligraphie, des poteries, des cérémonies de thé, et lui, ça l'ennuie à périr. Et lorsque l'aventure le jette à travers un pont invisible sur la terre des humains, ce qu'il découvre, c'est que ce qu'il aime chez les humains, c'est leur capacité à inventer des histoires, et encore plus quand ils ont bu un petit verre.
Oui, c'est ça. Bon, on va écouter la BO du roman. Vous avez choisi Paco de Lucia pour illustrer votre livre. Selon vous, c'est la musique qui pourrait être la musique du film, finalement, si on en faisait un film.
Alors, pas tout à fait. C'est la musique avec laquelle j'écris.
Bon, on écoute textes, et vous nous expliquez.
J'explique.
Allons-y. Magnifique musique de Paco de Lucia, qui accompagne donc votre lecture, écriture.
Oui, mon écriture, parce que j'écris très souvent en musique. Oui. En revanche, je relis sans musique parce qu'elle a tendance à magnifier le texte et à masquer tous les problèmes et tous les défauts.
Oui, oui.
Mais j'aime beaucoup avoir une musique avec un rythme qui correspond à la musique des mots que j'ai envie de coucher sur le papier.
Bonjour Isabelle Wehry.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans la librairie francophone. Une librairie très étrange aujourd'hui avec votre roman et celui de Muriel Barbery. On voulait vous proposer une grande séquence comme ça sur les mondes imaginaires. Et avec votre livre Poney Flottant, qui fait beaucoup parler de lui en Belgique en ce moment, on est servi. Une femme de 70 ans raconte sa vie. Elle est dans le coma. Elle perçoit des choses autour d'elle, mais ne peut plus bouger. Alors, elle va écrire le récit de sa vie avec sa mémoire. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Lui est arrivé, bêtement, elle a participé aux 20 km de Bruxelles et elle a vu passer le roi en short Adidas. Et il y a eu un mouvement de foule et voilà, elle est tombée et elle est tombée dans le coma.
Et ça a été fatal.
Bon.
La construction.
C'est un prétexte.
Oui, c'est un prétexte, oui, j'imagine. La construction et le style sont très particuliers, Isabelle, parce que vous jouez aussi bien avec la tristesse qu'avec l'humour. Et il y a cette petite fille, Sweetie.
Oui.
Il y a son grand-père qu'elle aime par-dessus tout, profondément, qui va lui dire qu'il lui reste 4 semaines à vivre. Vous décrivez un décompte de cette petite fille de 10h à 11h. La piqûre létale, c'est pour 11h, donc elle reste à la maison, le grand-père s'en va, on sait qu'il va mourir. Il y a le décompte de 10h à 11h. Moi, franchement, les 3 pages, j'ai pas pu les lire. Je les ai lues du bout des yeux, si je peux dire, parce que c'était trop dur.
Ah oui, à ce point.
Pourquoi nous infliger ça, Isabelle Wehry ?
Pourquoi vous
infligez ça ?
Mais ce sont des situations qui existent. Il y a des gens qui se font euthanasier et qui, à 10h du matin, n'existent plus. Voilà. Mais donc, c'est dans le parcours de cette jeune enfant. Mais il y a plein de choses très joyeuses dans ce roman. Et j'essaie néanmoins de parler de choses très, très graves, mais avec une forme d'énergie vitale, je dirais.
Et de la douceur.
Et de la douceur.
It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up the cow.
Now the workers have struck for fame, 'cause Lenin's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown.
Cette musique, qui selon votre personnage fait le lien entre la vie et la mort, oui, établit un pont entre le réel et le rêve. David Bowie, Life on Mars, que vous citez dans le livre.
Tout à fait. J'étais en train d'écrire le roman quand David Bowie est décédé. Et c'est un de mes idoles. C'est quelqu'un qui m'a vraiment donné le goût des pratiques artistiques. Voilà. Puis c'est quelqu'un d'androgyne, c'est une personnalité vraiment intéressante qui a créé des choses.
Sweetie qui va arrêter de grandir, Isabelle Wehry, de 1m51, elle va passer même à 1m49.
Oui,
et elle
oui.
s'arrêtera là. 1m49, il faut savoir que c'est la taille au garrot d'un poney,
c'est
un
ça.
Poney ferré. Parce que sinon c'est 1m48 sans les fers, et au-delà ça devient un cheval, enfin c'est classé comme un mm-hmm. cheval. Et comme elle fait 1m49, ferré on va dire, avec des chaussures donc, on la traite de poney.
C'est ça. C'est ça, donc ce qui la rend
dingue.
Tout
le reste de sa vie.
Parce qu'elle, elle souhaiterait avoir un cheval, elle souhaiterait être conquérante d'un royaume avec un vrai cheval. Donc, de se faire appeler poney, ça la rend dingue. Donc, ça va, elle va se venger.
Oui.
Oui.
Face à cette nature, finalement, toute puissante.
La nature, oui, qui est très présente.
Parce que,
dans le roman.
Voilà, elle lui enlève son grand-père, elle va lui enlever ce gamin de 10 ans.
Oui.
Voilà, et elle dit, avec mon grand-père, on ne croit pas en Dieu, on croit en la puissance de la nature.
Tout à fait, mais ça se passe dans une ferme, et
oui.
donc dans un espace qui est complètement à la merci des caprices de la nature. Mmh. Une ferme, on le sait, ça se fait en fonction des saisons,
bah oui.
des pluies, des dégels.
Et c'est dur, la vie à la ferme.
C'est très dur.
Le livre de Muriel Barbery, Un étrange pays, est paru chez Gallimard. Et Poney flottant d'Isabelle Wehry est édité par la maison d'édition belge On Lit. Dans un instant, un entretien fou du Québécois Michel Tremblay. C'était lors d'une émission mémorable co-animée avec Dany Laferrière de l'Académie française depuis le Salon du Livre de Montréal. Et l'écrivain suisse Bernard Coman qui est sur notre plateau pour son tout nouveau roman qui imagine une rupture totale d'électricité. Avant cela, voici le chanteur québécois Hubert Lenoir dans la librairie francophone. Merci à vous de nous écouter. À travers le monde.
Je suis le seul ressemble, les vêtements sont plus de ceux.
C'était Hubert Lenoir avec Recommencer.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
C'est le choix des libraires aujourd'hui dans cette avant-dernière librairie francophone de la saison. Josiane Nétourneau, au Québec, vous avez choisi un moment de radio avec le grand Michel Tremblay.
Oui, parce que ce qui me frappe immédiatement chez Tremblay, c'est sa générosité, c'est son honnêteté, c'est sa transparence. C'est vrai en entrevue, c'est vrai dans son œuvre, chaque fois qu'on l'écoute le lit. Il nous séduit encore avec cet humour qui est réellement un mélange d'amour et d'humanité. Je me souviendrai longtemps du postillon sur la cravate de Jack Lang ou de son pantalon perdu dans un cinéma porno de New York. Et ben c'est ça, ça c'est la magie Tremblay.
C'est ça, et c'est ce qu'on va entendre tout de suite. Et Michel Tremblay est avec nous pour son nouveau livre ici au Salon du Livre de Montréal. Émission spéciale co-présentée par Dany Laferrière. 23 secrets bien gardés est un recueil de textes qui raconte des morceaux de votre vie, Michel. C'est parfois très intime. Vous osez par exemple un récit dans un cinéma porno gay où vous perdez votre pantalon, Michel Tremblay.
Je savais que vous commenceriez. Ça dépend. Je le savais.
C'est à New York, sur la 8e avenue. Racontez-nous en substance.
Un détail.
Ben, ça fait partie des choses dont on a un petit peu honte, qu'on garde pour soi. Puis à un moment donné, on se dit, je ne sais pas, si je la racontais, ça pourrait être drôle. C'est comme n'importe quelle comédie, bien sûr. Ce qui se passe sur la scène au théâtre est épouvantable pour les gens qui le vivent, mais c'est très drôle pour les gens qui sont dans la salle. Alors, pourquoi ne pas le raconter, pas de façon drôle, mais de façon à ce que les gens qui vont lire trouvent la chose tellement absurde qu'ils vont
en rire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cinéma?
Je voulais pas venir là. C'était les années 70 et on essayait des choses, on faisait des tentatives, on faisait des expériences. Bon, j'avais entendu parler de la 8e avenue, qui était le royaume du porno avec la 42e à l'époque, et on m'avait parlé d'un cinéma porno où on pouvait faire des choses derrière l'écran. Tu rentres dans le cinéma, une tatarde de pas là, tu montes le petit escalier à droite et tu vas derrière, et là, il y a des choses qui se passent. Et je voulais expérimenter la chose, alors j'ai expérimenté la chose, et je suis arrivé là, effectivement, ça sentait fort, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, il y avait beaucoup de monde, et je me suis laissé emporter.
Déshabillé, quoi.
Je me suis laissé déshabiller.
Alors, le problème, c'est que vous avez vos papiers.
Pour me rendre compte, à un moment donné, que je ne trouvais plus mon jean.
Et c'est avec les papiers à l'intérieur?
Je ne trouvais pas et j'avais pas. À l'époque, on ne portait pas de sous-vêtements. C'était plus sexy.
Ah bon?
Alors, on avait un pantalon, mais on n'avait rien en dessous. Alors, j'avais perdu mon jean et j'avais rien en dessous. Alors, j'étais à quatre pattes. Et je cherchais désespérément.
Bien.
Mon
on va s'arrêter là.
Je ne le trouvais pas.
On va s'arrêter là.
On s'arrête là.
Nickel. On s'arrête là, d'autant plus
mais
que
c'est un moment de panique absolument épouvantable.
Ah, ben j'imagine.
D'un homme.
Ah, ben oui.
Écoutez.
Ouais, là, on ne peut plus l'arrêter, mais c'est un livre, il faut le dire aussi, très, très doux, qui commence à l'enfance, des évocations sensibles. On connaît tous le rapport de Michel avec sa famille, avec sa mère qui est au centre, et des chapitres qui alternent avec d'autres un peu plus adultes, et comme ça. Le livre tourne autour de l'humiliation souvent, et l'une des histoires concerne le ministre de la Culture français, Jack Lang.
Alors ça, oui, il y a des passages très drôles, effectivement.
Et qu'est-ce qui se passe avec
Et un
Jack?
Jour, en fait, vous êtes décoré en France, et vous allez à la délégation du Québec à Paris. Il y a le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, et vous...
Qui désire me rencontrer.
Et vous postillonnez sur sa cravate. Mais genre le postillon.
Oui. On vient me dire, Le ministre qui vient de vous donner la médaille veut vous rencontrer, je le rencontre, et en lui disant enchanté, je me rends compte que j'avais quelque chose dans la bouche et que, un beau postillon est allé se coller sur la cravate bleue France de Jack Lang. Alors, évidemment, c'est... Et on a tous les deux réagi comme nos sociétés. Moi, j'ai allongé le doigt et j'ai décollé...
Ah oui,
j'ai décollé le postillon et lui a regardé comme tout bon français. Il a fait comme si de rien n'était. Il a regardé ailleurs. Mais au bout de 10 secondes, il était plus là, il était disparu. J'ai jamais revu. Alors mais... j'ai décidé, j'avais tellement honte que j'ai décidé de ne jamais retourner à la délégation du Québec. C'était en 91, je pense, et je n'y suis jamais retourné.
Bon, on va vous emmener.
Votre mère le dit très bien, elle vous connaît, elle sait que vous finissez par une pirouette et il n'y a rien qui pourra vous arrêter dans la vie. Même cette scène où vous avez été en classe et
oui.
humilié par un professeur... Et vous avez tourné ça à votre avantage.
Alors, il vous frappe, hein, le professeur, à l'époque, parce qu'il ne vous aime pas, en fait. C'est un professeur d'anglais, vous êtes très bon en anglais.
Parce qu'il me trouvait arrogant. C'était le professeur d'anglais, puis j'avais répondu... je savais une réponse et j'ai répondu avant tout le monde, alors qu'il posait la question à quelqu'un d'autre. Et ça l'a choqué. Il me guettait depuis assez longtemps. Et il m'a demandé de me pencher sur... sur son bureau, en équerre, les pieds sur le plancher, à plat ventre sur son bureau. Et il m'a frappé, et j'ai mouillé mon pantalon.
Ouais.
Et à 14 ans, un petit gars qui mouille son pantalon devant 30 élèves, c'est absolument épouvantable. Alors, j'ai décidé d'y faire face, et je me suis relevé, et je me suis montré à tout le monde.
Et vous avez dit surtout une phrase.
J'ai quitté... Il n'était pas question que je ne dise rien. Il n'était pas question que je quitte cette classe-là humiliée. Alors, très grandiloquent, je suis allé vers la porte. J'ai ouvert la porte, je me suis retourné vers la classe et j'ai dit « Un jour, vous entendrez parler de moi. » J'ai quitté. Il y avait aucune chance que ça arrive. Heureusement, c'est arrivé. Mais c'était juste de l'orgueil, de l'orgueil pur, ne pas... partir humilié, dire quelque chose.
C'est une revanche sur la vie, ce livre, Michel Tremblay?
Non, je pense pas. Je voulais écrire un tout petit livre, il y a à peine 100 pages, et de façon à ce que, à la fin, quand la lectrice, le lecteur éventuel aurait fini de le lire, ils auraient l'impression d'avoir rencontré quelqu'un. Mmh. Alors, c'était pas une vengeance ou quoi que c'était, donner du pointillisme, si vous voulez.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et par petites touches, donner... l'impression qu'on a rencontré quelqu'un qui et c'est un personnage presque complet.
Et le roman de Michel Tremblay, 23 secrets bien gardés, est paru au Canada chez Leméac et en Europe chez Actes Sud. L'écrivain suisse Bernard Coman est sur notre plateau dans la librairie francophone. Vous connaissez Michel Tremblay, Bernard?
Pas personnellement, mais j'aime beaucoup son œuvre. Et...
il est drôle.
L'extrait est formidable.
Oui, formidable. Vous publiez un nouveau roman, Neptune Avenue, chez Grasset. Votre narrateur est suisse, comme vous, parti pour un autre pays, comme vous, à la tête d'une fortune, comme vous.
Pas moi.
Il est à New York et il nous raconte sa vie et pourquoi il en est arrivé là. Dans cette ville, à ce moment-là, il y a une panne géante.
Oui, il faut dire que j'étais à New York à l'automne 2012 quand il y a eu l'ouragan Sandy. Mmh. Et c'est peut-être là que j'avais déjà l'idée de ce roman un peu avant, mais pas sous cette forme. Et c'est sans doute là que quelque chose a cristallisé, parce que c'est très impressionnant d'être dans une grande ville et de voir les conséquences. Parce que nous, on est tellement habitués par l'électricité qu'on ne voit plus à quel point on en dépend. Mais tout à coup, quand elle n'est plus là, on mesure à quel point les conséquences sont énorme,
et touche
tous les aspects de notre vie quotidienne, aussi bien la communication, le transport.
Alors on va y revenir, mais c'est vrai que cette panne, elle ralentit la vie. C'est une occasion de se pencher sur ses priorités, de faire aussi le point sur sa vie, comme c'est le cas pour votre personnage. On a tous constaté ça d'ailleurs, lors d'une panne de courant, tout devient suspendu, le rythme ralenti, contraint et forcé, la notion du temps se modifie. On a d'autres priorités à ce moment-là, c'est drôle.
Oui, d'une certaine façon, on n'a plus de priorité.
Oui,
On est là, exposé au temps qui s'écoule de façon très différente. Voilà, c'est une lumière laiteuse, c'est l'été, il fait beau, tout serait idéal pour une vie normale, mais la vie n'est plus du tout normale.
Il y a le grain de sable, en fait.
Il y a le grain de sable.
Les voisins de votre narrateur vont s'inquiéter des rumeurs autour de cette panne géante d'électricité. Et vous dites, on a trop vécu sur le compte de l'électricité. C'est vrai que sans elle, vos personnages racontent que on perdrait tout, y compris la mémoire.
Bah oui, il faut dire une chose, c'est que l'électricité, c'est pas si ancien, hein, c'est un siècle et demi. Et en un siècle et demi, l'humanité a livré son destin entièrement à l'électricité, à la condition d'énergie. Mmh. Et aujourd'hui, de plus en plus, on sait qu'on numérise absolument tout, et que notre mémoire, notre patrimoine, nos photos sont numériques.
C'est vrai.
Eh bien,
tous les souvenirs, quoi.
Voilà, tous les souvenirs qu'on constitue aujourd'hui peuvent disparaître du jour où on n'aura plus la condition d'énergie pour y accéder.
Vous écrivez, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons mis une condition d'énergie pour accéder à notre mémoire, toute notre mémoire. Vous portez aussi une réflexion sur cette consommation effrénée que vivent les Occidentaux. Ça a l'air de vous perturber, Bernard Comment, cette consommation-là. Et en tout cas, c'est vrai que ça change là aussi. Quand il y a une panne d'électricité, la société de consommation change immédiatement.
Je suis peut-être arrivé à un âge où on fait un peu un bilan, et dans ce bilan, je me suis rendu compte qu'il y avait eu vraiment une transformation au début des années 80, où tout le système de valeurs s'est déplacé. Avant, je dirais jusqu'au milieu des années 70, eh bien, il y avait l'idée d'accomplissement personnel. Et le matérialisme s'est imposé avec une violence de plus en plus grande. Et je pense que la grande idéologie qui s'est installée dans les années 80, c'était faire de l'argent. C'était trouver un métier et faire de l'argent. Moi, je me souviens que dans ma jeunesse, notre idéal, c'était de retarder autant que possible l'entrée dans la vie, pas forcément professionnelle, mais salariale. On voulait se maintenir dans une certaine liberté, etc. Aujourd'hui,
il faut aller vite.
L'idéal, c'est le CDI. C'est le contrat de travail.
Et la notion d'argent a changé d'ailleurs, parce que il y a un personnage comme ça, il y a un échange entre un collègue de votre narrateur et votre narrateur qui a fait fortune, je le rappelle, dans la finance, et lui dit qu'on n'est jamais vraiment riche. Il lui dit: tu verras, le luxe est sans fin et on s'adapte à ce qu'on a. Si tu as peu, tu vis avec peu. Si tu as beaucoup, il te faut beaucoup et toujours plus. C'est pour ça que le monde n'est pas si inégalitaire qu'on le dit.
Oui.
C'est horrible.
C'est un peu un paradoxe. Mais c'est vrai que quand vous regardez les sommets qu'atteint le luxe aujourd'hui, eh bien, vous vous dites que quand vous êtes milliardaire, vous pouvez très bien flamber assez vite et avoir des inquiétudes d'argent. Tellement les propositions se multiplient.
Bon, à un moment, je pense qu'à un moment, on a tout.
Bah, surtout les milliardaires.
Moi, je pense que ça va. Pas d'inquiétude pour eux.
Ça va pour eux.
Les quatre libraires ont lu votre roman, Bernard Comment, la France, la Suisse, la Belgique et le Canada. On commence par qui ?
La Suisse.
La Suisse, allez, allons-y. Avec vous, Claire Renaud.
Oui. Alors, moi, j'ai eu un plaisir énorme à lire votre livre. C'est un beau roman mélancolique sur le temps qui passe. Et vos personnages qui ont de fortes personnalités sont très attachants. Et j'ai envie de rajouter que c'est aussi un bel hommage aux femmes. Vous en parlez très bien, je trouve.
Merci.
Votre livre questionne évidemment aussi sur la consommation et le gaspillage et la filiation. Bref, c'est un roman de vie profond, mais plein d'espoir.
La Belgique, ça vous va ?
Mais c'est parfait.
Déborah Damblon, allez-y.
Bon, alors Emmanuel, n'écoutez pas. Déjà, j'ai dit j'aimais le fantastique. J'aime aussi la littérature américaine. vous savez, ces romans où il se passe pas grand-chose, mais qu'on dévore vraiment comme si notre vie en dépendait. Et puis ces personnages qui sont tellement justes et tellement attachants qu'on les regarde comme si on était leur chat, vous voyez, avec une affection un peu désespérée. Alors, certes, parfois, votre roman, il est un petit peu long et il est assez désespéré, mais moi, je me sentais chatte en le lisant, et les chats, ils sont patients et philosophes. Et j'ai aimé.
Je me sentais chatte en le lisant. On va noter cette phrase. Thomas Hausser, c'est à vous pour la France. Vous avez aimé ce roman ?
Ah oui, moi j'ai adoré. J'ai eu un grand coup de cœur pour ce livre à la construction intelligente et étonnante. J'ai adoré prendre mon temps à découvrir les différentes strates de temps qui font le récit, les personnages aussi, qui gardent une petite part de mystère hein, jusqu'au bout. Et puis surtout, j'ai apprécié votre écriture. Votre livre est très beau. C'est élégant et aussi implacable, hein, votre style. J'étais passé à côté de votre texte, donc moi je remercie Emmanuel à la librairie francophone de me l'avoir mis entre les mains.
On vous a obligé à le lire.
Ouais.
Josiane Letourneau, obligée aussi. Et vous êtes favorable aussi, d'après mes infos.
Oui, puis je vais retenir en fait particulièrement trois choses de cette œuvre. En fait, le regard extrêmement lucide du narrateur sur le monde en général et sur la société américaine en particulier. L'écriture qui demande avec raison au lecteur d'être patient. Et l'amour pur de cet homme pour deux femmes formidablement fortes, marginales et uniques. Et c'est vrai que c'est un roman qui prend son temps pour se révéler. Et il faut se rendre jusqu'au bout de ce livre pour l'apprécier réellement.
Vous avez séduit tous nos libraires, Bernard Comment.
Ah, c'est formidable.
Banco. Ça vous va.
Banco.
Ça vous va. Plus d'électricité, plus d'ordinateurs, Bernard. Plus d'ordinateurs, plus de moyens de paiement non plus. À défaut d'électricité, plus de traces de nos avoirs. Et ça fait réfléchir sur nos comptes bancaires. Et votre personnage se dit, j'ai amassé une fortune qui est sur des comptes bancaires et du jour au lendemain, ça peut disparaître.
Bah oui, c'est antinomique aux bas de laine. Autrefois, vous aviez les bas de laine et quoi qu'il arrive, vous pouviez les mettre à l'abri. La virtualisation complète du monde fait qu'aujourd'hui, tout peut s'écrouler d'une minute à l'autre, effectivement. C'était justement d'essayer de se dire qu'on n'est pas condamné à ça. Et que peut-être que si cet écroulement a lieu, eh bien, d'autres formes de vie et de vivre ensemble pourront naître.
Mais ça vous inquiète, ça ? Votre compte bancaire, par exemple, qui peut disparaître. Bon, on dit que c'est pas possible, hein, qu'il y a des pare-feux, des garde-fous, les gouvernements s'engagent aussi. Il y a eu toute une histoire à un moment où on s'est posé la question, mais...
Les gouvernements s'engagent facilement.
Oui.
Mais quand il y a des problèmes,
oui,
ils,
généralement,
ils ont tendance à dire,
oui,
voilà, on s'est trompé.
On s'est trompé.
Et c'était plus compliqué que prévu. Donc, voilà. Mais après, moi, je pense que tout ça peut orchestrer une société de la peur. Je pense qu'il faut pas avoir peur. Parce que même l'effondrement de tout un système est l'occasion d'en inventer à nouveau.
Et vous comparez avec les années 70, années d'insouciance sexuelle, libérée. C'est aussi un roman très sexuel, Bernard Comment, avec des passages très crus, avec Bijou, une certaine jeune femme extravagante, avide du sexe des hommes, hein, c'est ce que vous écrivez. Elle a une relation avec le narrateur qu'on découvre, qu'elle va découvrir elle-même, on va pas trop en dire parce que sinon on dévoile tout. Mais c'est pour doper les ventes, ces passages crus, c'est pour le capital, Bernard ?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord, je suis pas sûr que ça dope les ventes. Et d'autre part,
non, qu'on l'a
c'est,
dit, si.
C'est pour une raison plus profonde. Je pense que la sexualité est quand même une expérience absolument fondamentale de l'homme, enfin de l'homme au sens large. Et donc, je vois pas pourquoi la littérature se pincerait le nez ou fermerait les yeux devant cette réalité qui nous constitue, qui nous anime chaque jour de notre vie.
Elle ne s'en prive jamais, hein, la littérature. Elle se prive jamais de sexe, en fait. Hein.
Non, mais enfin, elle peut mettre des voiles.
Oui, bon, de moins en moins.
Ouais.
On en parle tout le temps du sexe, ici.
Mais c'est bien.
À cause de vous,
c'est
à cause
bien.
Des auteurs. Merci beaucoup, Bernard Comment.
Merci
d'être revenu dans la librairie francophone. Neptune Avenue est paru chez Grasset. À suivre, Jean-Claude Grimbert pour un conte bouleversant qui humanise les horreurs de la guerre. Et voici la chanteuse corse Clara Luciani qui a eu un gros succès cette saison. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà.
Thank you. Paris. Mais ce n'est pas Londres. Ce n'est pas Berlin. Ce n'est pas Hong Kong. Pas Tokyo. Je fais si chaud. Je t'emmène. Je t'emmène sur la belle.
La chanteuse Clara Luciani avec l'abbé dans la librairie francophone. Jean-Claude Grimbert a publié un conte qui a bouleversé nos libraires et de nombreux auditeurs. Et c'est le choix de notre libraire français, Thomas Auxerre.
Eh bien oui, absolument Emmanuel. Son conte, dont le titre est « La plus précieuse des marchandises », publié au Seuil, bah moi déjà ça m'a bouleversé. J'ai envie de dire que j'ai été vraiment très ému d'être assis à côté de lui. C'est vraiment un auteur qui transpire l'humanité, un petit peu comme son texte hein, d'ailleurs. L'entendre et le réentendre après en balado-diffusion, c'était vraiment génial. Enfin moi je me suis régalé. Voilà, c'est un livre où vraiment on se sent meilleur, on se sent grandi quand on l'a lu. Et ça marche parce que les lecteurs reviennent et vraiment l'achètent pour l'offrir. Donc moi je le redis, hein, à conseiller aux ados, ouais. À ceux qui lisent un ou deux livres dans l'année, ou même ceux qui lisent 20 livres pendant l'été, franchement tout le monde va adorer.
Il faut lire ce conte et on l'a conseillé à tous les enseignants au moment où il était bien venu. Sûr. Et on le dit encore, c'est un livre magistral qui résume tout. Et qui dit tout sur les horreurs de la guerre. Il faut faire Exactement. Lire ça aux enfants. Jean-Claude Grimbert.
Les médias francophones publics. Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Jean-Claude Grimbert est avec nous, un dramaturge qui est l'un des plus joués dans le monde. Votre œuvre, Jean-Claude, souvent drôle, toujours émouvante, est peuplée d'enfants privés de leurs parents. Et vous êtes orphelin vous-même, puisque votre père a été déporté en 1943. Vous le confiez à la fin de votre conte. Est-ce en rêvant des histoires d'enfants qui finissent bien que vous avez réussi à résister à la douleur ?
Je voudrais dire quelque chose à propos de la douleur.
Allez-y.
C'est-à-dire que les enfants déportés n'ont pas été déportés eux-mêmes. Voilà. Et c'est au long des années qu'on s'aperçoit qu'on aurait pu être déporté. On se sent comme en survie. Mmh. Ensuite, dans l'immédiate après-guerre, quand on commence à concevoir les choses, quand on a mon âge, je suis né en 39, on attend encore un père, mais c'est un père inconnu. Je n'ai aucun souvenir physique de mon père. Je ne sais pas s'il avait un accent ou s'il n'avait pas d'accent. Je ne sais pas s'il fumait ou s'il ne fumait pas, voilà. Donc, la douleur, elle se construit presque.
Voilà, elle s'est construite. On l'atténue comment, la douleur, Jean-Claude ?
Je pense qu'elle grandit au fil des ans, voilà.
Et que elle plus, grandit.
Elle grandit, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus conscient de ce que ça a été. Tous les jours, j'apprends une nouvelle petite chose. Je lis des livres, je parle avec des gens, voilà. Et puis.
Et vous en faites des histoires ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, les survivants vont disparaître. Les enfants, comme moi, de survivants, sont déjà sur la bascule. Donc, bah, comme je peux écrire que là-dessus, j'écris là-dessus. Hein. On ne choisit pas ce qu'on va écrire. On subit. Voilà, j'ai écrit ça. Et en même temps, je me dis, il faut. Voilà, les gosses, on leur dit. Je parle des gosses, ce n'est pas un livre pour les gosses. C'est un livre pour tout le monde. Mais ils n'ont qu'une vie. Hein. Mmh. On fait des enfants. Il faut leur. À la fois leur dire l'horreur et leur donner envie de vivre malgré tout.
D'accord. Voilà.
Après, on m'a dit, c'est pas pour les enfants. Donc, ça a été dit.
Si, quand même, si.
Oui, c'est pour les enfants, mais pour il vaut mieux qu'ils soient accompagnés par leurs parents.
Alors parlons-en justement. La plus précieuse des marchandises est un conte éblouissant mais bouleversant. L'histoire d'un couple de bûcherons très pauvres, sans enfants, qui un jour reçoivent une petite fille jetée d'un train par un jeune papa qui est en chemin pour l'enfer. C'est la guerre et les juifs sont assassinés dans des camps par les barbares nazis. C'est une histoire très dure mais vous arrivez à la rendre lumineuse, Jean-Claude Grimbert. Malgré la barbarie, le rejet de l'autre, dans votre rêve, dans cette histoire, il y a un espoir.
Oui, l'amour. Ouais. L'amour que cette bûcheronne va porter à cet enfant. L'amour du père de cet enfant. Il se trouve qu'il a deux jumeaux qui sont dans un... qui a plus de lait pour les deux jumeaux. Et il se dit, en jetant un par la lucarne, peut-être celui-ci vivra et peut-être que l'autre aura du lait. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont vers la mort. Mmh. Lui, sans doute.
Oui, il imagine, oui. Voilà. Mmh. La force des rêves favorise la possibilité d'un espoir. Comme
je
là.
Pense, ouais. Je pense, oui. Et puis en plus, il y a des rêves lumineux. Il y a des rêves. J'aurais pu rêver que mon père revienne.
Voilà. Ça ne m'est pas arrivé, mais...
Ça vous est jamais arrivé, ce rêve-là?
Non.
Jamais?
Non, non. Par contre, j'ai vu une image un jour, à la télé, dans une émission très médiocre. J'ai vu l'image d'un déporté soutenu par deux soldats. Et j'ai eu l'impression que c'était mon père. Mais c'est la seule fois.
Bon, je ne vais pas trop raconter cette histoire, car je souhaite, je veux même que les auditeurs la lisent, parce que c'est un modèle de tolérance, Jean-Claude Grimbert, votre histoire. Un modèle de résistance et de bienveillance. C'est aussi un témoignage qui résume tout.
J'ai écrit en toute inconscience ce conte, et puis après c'est à chacun de le déchiffrer et d'essayer de voir ce qu'il veut admettre de cette histoire. Voilà, puisque vous avez des gens qui viennent vous dire, et il paraît qu'ils se multiplient en douce, qu'il n'y a pas eu les camps, qu'il n'y a pas eu d'extermination. Alors moi je trouve que ce serait une bonne nouvelle, si c'était vrai, voilà. Si ça n'a pas eu lieu, il faudrait qu'on nous dise où est mon père, où est le père de tous mes copains, où sont les pères, les mères, les enfants, voilà. Et puis, bon, il se trouve que tout à l'heure on a parlé du temps qui passe. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, et c'est peut-être le résultat de tout ce temps passé, de toutes ces lectures, de toutes ces rencontres, qui ont fait que le texte s'est écrit tout seul.
La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert est parue aux éditions du Seuil.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et la chronique des libraires à présent, avec les coups de gueule et les coups de cœur, on se défoule une dernière fois. On commence par un coup de gueule, Déborah Damblon.
Bah oui Emmanuel, je vais vous parler d'un super livre, 1749 Miles de Fabienne Blanchu. Il vient de recevoir le prix Première Victor de RTBF La Première. Mmh. C'est un prix qui vise à faire lire les jeunes ados, donc important.
Oui.
Et bah figurez-vous qu'il n'y a pas moyen de le commander, presque pas. L'éditeur exige un paiement avant envoi, il refuse les retours des invendus, donc impossible de faire des piles en librairie, de pousser le titre pour les vacances, pour la rentrée des classes. Et bah c'est triste, mais c'est très triste.
Mais c'est publié chez qui? Du coup.
De pleine en vallée, Emmanuel.
D'accord, il faut faire un effort, hein, parce que l'éditeur qui a un prix, généralement, il fait un effort. Mais bon, ah ok, ben. C'est noté. Merci Déborah. On va vers un coup de cœur au Québec, Josiane Letourneau.
Oui, ben, quand on est libraire, donc lectrice boulimique comme moi, parfois on a besoin d'être surprise, bousculée, voire carrément brassée par un roman. Alors c'est l'effet que m'a fait « Vos voix ne nous atteindront plus » de Julien-Guy Bélan aux éditions Héliotrope. Alors c'est une histoire qui, en cours de lecture, m'a virée de bord, comme on dit ici, à 180 degrés, m'a procuré un grand bonheur parce que j'y ai trouvé une audace presque kamikaze que je ne croise pas tant, et ce dans une langue extrêmement actuelle. Alors si vous avez besoin en fait de sortir de votre ordinaire, c'est un roman que je vous recommande.
Il faut lire ce livre, « Vos voix ne nous atteindront plus », un roman kamikaze de Julien-Guy Bélan. Et c'est son premier roman. Merci beaucoup Josiane. En France, un coup de gueule, Thomas Auxerre.
Eh oui Emmanuel, alors un coup de gueule qui va aussi vous parler, c'est contre certains éditeurs pour leur gestion des services de presse, donc les SP comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire les livres que les éditeurs nous envoient, à nous les libraires, et aussi aux journalistes avant parution. Comme ça, on peut les lire, on en parle mieux quand ils sortent, voilà.
Oui, ça c'est vrai.
Alors malheureusement, certains éditeurs nous en inondent littéralement. Mais alors pour des titres des fois qu'on veut même pas lire, hein, qu'on veut même pas avoir, on les reçoit, on ouvre l'enveloppe, on se dit oh j'en veux pas. Donc on en reçoit énormément.
Oui.
On sait plus où les mettre. Moi ma réserve déborde. Alors j'imagine que pour vous c'est pareil Emmanuel, hein, parce que à deux mois de la rentrée littéraire, est-ce qu'il vous reste un peu de place dans votre bureau?
Non alors je vous dis pas le bureau, mais c'est vous râleriez s'il n'y avait pas ces services de presse. Vous
c'est
savez
vrai
ça.
Aussi, mais
c'est un problème de riche
gueule,
Thomas.
Hein. Oui.
C'est mon coup de gueule moi. Hein. Vous avez des problèmes de riche Thomas. C'est scandaleux. Un coup de cœur en Suisse pour terminer. Claire Renaud pour un livre avec des chroniques rééditées, Claire.
C'est les chroniques parues dans l'Hebdo du 1er mars 2000 à août 2001 qui s'intitulent « Dire la gloire et la menace ». Et j'ai retrouvé avec un immense plaisir la verve et l'humour de Jacques Chesset et je me suis rendu compte en fait qu'il me manquait. Alors, dans ses chroniques littéraires et diverses et variées, il va autant parler des auteurs qu'il adore que des auteurs qu'il déteste. Mmh. Il va parler de sa chatte et puis d'autres sujets qui touchent à la culture. En fait, à travers son style, on retrouve toutes les facettes de sa personnalité et c'est un pur bonheur.
Et il n'avait pas la langue dans sa poche, hein, Jacques Chesset. Dire la gloire et la menace, chronique parue dans l'Hebdo du 1er mars 2000 au 30 août 2001, préfacé par Isabelle Falconier, c'est aux éditions de L'Air. Et le dernier coup de cœur des moments de l'année, c'est avec vous, Claire. Vous avez choisi Eugène, qui était venu en octobre, pour son roman Ganda, qui est l'un des meilleurs romans que l'on ait lu cette saison. Je vous le dis, vraiment. Et vous avez choisi aussi cette ouvrage, donc.
Oui, parce que c'est plein d'humour et érudit à la fois. Et on nous emmène de Goa au Portugal en compagnie de ce rhinocéros. Et puis, il faut préciser aussi une chose, c'est que derrière toute cette ironie, il y a l'absurdité de ces cadeaux diplomatiques qui sont toujours actuels. Oui. Et j'ai l'impression que les frasques de nos grands présidents actuels ressemblent beaucoup aux frasques des rois de l'époque.
Voici Eugène dans la librairie francophone avec, vous allez l'entendre, une lecture du grand Jacques Tardy. Et bonjour Eugène.
Bonjour, bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes un auteur suisse, connu notamment pour vos livres pour la jeunesse. Vous publiez Ganda, un roman pour tous. C'est un peu osé parfois, mais très peu. Cette histoire est incroyable en tout cas, mais elle s'appuie sur des faits historiques. Vous racontez les conquêtes du Portugal. En 1515, on se bat pour l'Inde.
Oui, ce qui m'intéressait, c'est que tout est vrai. En tout cas, l'ossature, le squelette est vrai.
Oui.
C'est vraiment l'histoire d'un rhinocéros offert au roi du Portugal. Et puis à l'époque, on trouvait normal de mettre un rhinocéros sur une caravelle en partance de Goa, lui faire faire le tour de l'Afrique et de l'envoyer à Lisbonne.
Il y a le roi Manuel Ier, roi du Portugal, avec un titre à rallonge d'ailleurs, qui dira à Alfonso dans une lettre « Tuer des Arabes, c'est bien, rendre jaloux les Espagnols, c'est encore mieux ». Ils sont horribles, hein, vraiment, tous vos personnages.
C'est un peu la foire des vanités,
oui.
Très fiers d'eux. Et à mon avis, à l'époque, le vrai prestige, ce n'était pas d'avoir une armée ou une conquête, c'était la ménagerie royale, la taille de sa ménagerie royale. Ça veut dire qu'on avait des terres très lointaines. Et pour le coup, à l'époque, Manuel Ier, c'était vraiment celui qui avait la plus grosse ménagerie.
Mais il collectionne les animaux,
oui,
du monde entier.
Oui, parce qu'il possédait une partie du Brésil, il venait de le découvrir, et il avait une partie de l'Inde aussi. Donc c'était quand même, pour ce peuple, c'est stupéfiant. Ils sont vraiment, à l'époque, ils sont 1,5 million de Portugais, et ils possèdent un bon bout de globe.
Et voilà cette histoire d'animal, Eugène. L'éléphant bleu et l'arrivée d'un ganda, un rhinocéros offert par le sultan du Gujarat en guise de cadeau de consolation.
Oui.
Dites-nous vite fait, pourquoi consolation?
Parce que A voulait construire une forteresse, alors il demande au sultan local, est-ce que je peux faire ça? Le sultan dit non, mais c'est bon, vous allez finir par nous envahir avec votre forteresse.
C'est ce qu'il veut faire d'ailleurs.
Oui, donc non, on ne pouvait pas, mais comme il faut rester en bon terme, il lui donne une forteresse vivante, c'est-à-dire un rhino. Un ganda, comme on dit en indien. Et lui ne sait pas quoi en faire de ce gros machin. À Goa, il se demande qu'est-ce qu'il va en faire. Et puis, moi je connaissais cette vieille histoire, c'est qu'un cadeau, il ne faut jamais le rendre, il faut le recycler si on ne l'aime pas. Rendre, ça rompt toute relation, mais quand on recycle, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il l'offre à quelqu'un de plus puissant que lui pour sa propre gloire, et c'est son roi, Manuel Ier.
Ça, il ne va pas savoir qu'en faire. Ouais. On va y revenir, on va attacher le ganda comme ça avec de grosses chaînes pour pas qu'il bouge, parce qu'il est quand même féroce, alors que l'éléphant est attaché avec une petite ficelle.
Oui.
C'est un grand mystère que va dévoiler Ossem dans une lettre à Alfonso, et toute la philosophie du livre, Eugène, est dans ce passage. On va lire ce passage, si vous permettez. Et c'est Jacques Tardy
qui
a accepté. Oui, alors vous êtes fan de Jacques, je crois.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien.
Je suis heureux.
Et ça va être sur la musique indienne du Mahabharata, que vous connaissez tous. Je vous fais signe dans un instant, Jacques. Et voici la musique indienne.
Avant de terminer cette lettre, je voulais vous révéler un secret. Vous vous souvenez sans doute de ce fameux secret des Cornac. Comment une simple cordelette peut-elle garder prisonnier un éléphant? La réponse est désolante. L'éléphant ne sait tout simplement pas qu'il peut la casser. Dès le premier jour, le Cornac attache l'éléphanteau avec cette cordelette. Le bébé pachyderme a beau tirer, il ne parvient pas à la casser. Si bien que l'animal grandit avec la conviction que la cordelette est incassable. Toute sa vie, il restera persuadé qu'il n'a aucune chance de briser ce lien. Pour sa part, Ganda a été capturé à l'âge adulte. Il n'a jamais grandi avec une cordelette dans la tête. C'est pourquoi il faut des chaînes solides pour l'empêcher de courir. Ganda est plus libre que beaucoup d'hommes. Vous savez, on est tous l'éléphant de quelqu'un, attaché par une minuscule cordelette qu'on imagine incassable. Je vous souhaite de briser la vôtre.
Les
Jacques Tardy, qui lit un extrait de Ganda, signé Eugène. Magnifique lecture, Jacques. Merci beaucoup.
Merci.
Elle est pas mal, cette histoire. C'est une belle histoire. Et c'est vrai que c'est ça, le livre. Pour tous vos personnages, il faut arriver à briser sa chaîne. En tout cas, être conscient que parfois, on peut se libérer des entraves.
On s'interdit beaucoup de choses dans la vie. On dit, c'est pas pour moi. Par autosuggestion, on se déclare incapable de... Donc, Ganda, lui, est libre. Il n'a jamais été enfant attaché en tant que bébé rhinocéros. Donc, il est plus libre que beaucoup d'hommes. Ça m'intéressait, cette situation. Ce qui m'intéresse aussi, c'est à quel point, quand on décide que j'ai le droit de tout faire, on finit président des États-Unis. Par exemple, Trump décrète qu'il a le droit de tout faire et il fait tout, effectivement.
Emmanuel Ier, c'est un peu ça, j'allais dire. Hein. C'est un peu le Donald Trump aussi, Emmanuel
Ier. À l'époque, pour 1515 aussi. Ouais. Donc, bon, il y a plein de liens avec notre époque, c'est un roman historique, mais moi je voulais parler de nous. Bah, par exemple, le président Macron a offert en janvier un cheval à la Chine.
Oui.
Voilà, donc les cadeaux diplomatiques vivants continuent. Donc c'est pour parler de nous.
Le livre d'Eugène Ganda est paru chez Slatkin. Voilà, c'était les choix de nos libraires. Mais notre sélection continue dans la librairie francophone estivale à partir du 29 juin sur RTS, la RTBF, ici Radio-Canada, France Inter et RFI. Chaque semaine, nous réaliserons l'émission depuis une ville francophone avec des reportages et des rencontres inédites. Mais vous entendrez aussi des grands entretiens qui vous ont marqué, qui nous ont marqué ces derniers mois dans la librairie francophone classique avec des auteurs du monde entier.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici l'artiste Johan Papa Constantino aux influences orientales avec un extrait de Pourquoi tu cries.
Pourquoi chérie tu cries, hier comme aujourd'hui, que tu gardes un mousquisis, relis d'amour tolé. Que je m'en foutais, toi que je regardais pour moi. Après que j'ai vu pour toi, toi tu m'as dit ça. Tu es en love, mon bébé, mais là je vais voir
ailleurs. C'était Johan Papa Constantino avec Pourquoi tu cries, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Merci beaucoup Bernard Coman. À très bientôt.
Merci à vous.
À la réalisation Cyril Pascal avec Clément Vuillet, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse. René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet, Sylvie Julien avec Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, nous serons donc à Montréal pour la dernière émission de la saison avec Ariane Moffat et son invité surprise, Larry Tremblay et un reportage à Port-au-Prince, dans la galerie Monin avec le Suisse Michel Monin, entouré d'artistes. Bonne semaine, bon week-end à tous. À bientôt, salut.